Bonne nuit sur France Inter.
Il est 2h du matin, les informations avec Héloïse Roger. 3 morts en moins de 48 heures à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Deux personnes ont été tuées par balle ce dimanche en fin d'après-midi, à moins de 2 km du lieu d'une première fusillade mortelle vendredi soir. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, les deux hommes âgés d'une trentaine d'années étaient connus pour violence et trafic de stupéfiants. Ils ont manifesté à Chambéry, Nice, Tours ou encore Paris, plusieurs rassemblements ce dimanche pour lutter contre la transphobie à l'appel de 800 collectifs et personnalités comme Annie Ernaux ou Vanessa Springora. Les manifestants s'opposent à une proposition de loi d'une sénatrice qui vise à encadrer les pratiques médicales dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Elle veut notamment interdire les bloqueurs de puberté ou les traitements hormonaux. Au lendemain de son arrivée à Paris, le président chinois Xi Jinping rencontre ce lundi Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Une cérémonie officielle aux Invalides suivie d'un dîner pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. Lors de cette rencontre, ils doivent notamment aborder les différends commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Le projet de trêve n'a toujours pas abouti entre Israël et le Hamas. Une réunion entre les deux parties s'est achevée hier au Caire sans succès. Des discussions doivent cependant se poursuivre au Qatar ce lundi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne pouvait accepter la demande du Hamas qui réclame un cessez-le-feu définitif dans le territoire et la libération des otages enlevés le 7 octobre dernier. Dans ce contexte, une semaine de mobilisation pro-palestinienne prévue dans les universités partout dans le monde. En France, le mouvement a été initié par Sciences Po Paris fin avril avant d'être évacué. Et en fin de semaine dernière, d'autres instituts d'études politiques ont suivi, comme à Reims ou à Nancy, ainsi que l'université de la Sorbonne à Paris. Les étudiants demandent la fin de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza suite aux attaques du Hamas et l'arrêt des partenariats entre leur campus et les unités israéliennes. Au sud du Brésil, les inondations ont fait plus de 70 morts et une centaine de disparus. 80 000 personnes ont dû fuir leur habitation. 1 million de foyers sont privés d'eau. Une grande partie des communes touchées se retrouvent isolées. Des routes ont été coupées par les pluies diluviennes et les glissements de terrain. En rugby, victoire pour le Stade toulousain. Il décroche une place en finale de la Champions Cup face aux Harlequins. 38-26, 3 ans après leur dernier titre européen. Les Toulousains affronteront les Irlandais de Leinster le 25 mai prochain à Londres.
Les nuits d'Inter continuent avec Denis Chessou pour CO2 Mon Amour.
Une seule vallée, une chaîne de montagnes est une immensité.
CO2 Mon Amour.
Et de toute manière, une vie n'y suffit pas pour être passé dans tous les endroits. C'est pas possible.
Denis Chessou.
Et d'avoir la chance, parce que c'est pas encore tout à fait terminé, mais d'y faire un métier comme celui-là, qui m'a amené d'un bout à l'autre de la chaîne, sur les deux versants, d'y rencontrer une rare diversité de paysages, une rare diversité culturelle et paysagère, évidemment.
Sur France Inter.
Venez respirer avec Daniel Guilly. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Anne-Laure Cochet à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Il commence par une petite humeur, parce qu'il est des vies d'empereurs qui finissent mal chez les humains, comme chez les oiseaux torpilles de l'Antarctique. Les satellites nous le disent, le réchauffement déstabilise notre calotte glaciaire. Et sur 5 colonies surveillées à l'ouest de l'Antarctique, 4 ont subi une perte de poussins de 100%, noyés ou morts de froid, quand la glace de mer a cédé sous leurs minuscules papates. Et nous, chez les empereurs, on se reproduit en plein hiver austral, quand rudes sont les températures, longs sont les mois entre l'accouplement, le couvage et le moment où nos petits sont autonomes. Ah, on n'a pas choisi une voie facile hein, pour notre carrière. Et non. Pondre un seul œuf en plein hiver sur un glaçon géant appelé banquise, le confier au papa, qui n'a comme berceau pour couver sur ses pattes qu'un repli adipeux de son bide. Et puis, la mère doit partir pêcher en mer à des centaines de kilomètres. C'est tout de même prendre le risque hein, de ne rien retrouver au retour. Maman Manchotte n'a pas froid aux yeux, mais c'est le karma des empereurs. Bon, alors, jusqu'ici, quand même, depuis des millénaires, notre affaire n'avait pas trop mal marché, il faut reconnaître. Hein, au point d'avoir même décroché à Hollywood un Oscar en 2005. Ah, chapeau à plume, monsieur Luc Jacquet. Mais les climats du jour sont à la réchauffe. Les chevaux de mer en chaleur galopent et leurs naseaux de CO2 larguent les amarres. Et pour nous, eh ben, ça va trop vite. Même assis, accroché sur la soupape, il semble que Superman soit dans l'incapacité de stopper la marmite. De moins en moins de glace dans le whisky pour nos poussins manchots transis qui partent à la dérive et puis à la baille. Eh ouais, parce qu'ils sont pas encore équipés hein, de leur combinaison de survie, garantie waterproof, des plumes imperméables. Et papa n'y peut rien, il ne sait pas tricoter et maman est aux commissions pour des semaines. Manque de chance, il leur faut du froid. Et là, évidemment, il n'y en a pas assez. Alors, apocalypse annoncée pour la suite, pour la marche de l'empereur. C'est déjà la Bérézina. Pas tout à fait encore la retraite de Russie, mais ça y ressemble. Il faut retarder l'heure. En revanche, pas de souci à Perpignan. Il n'y a plus d'eau depuis 2 ans dans le Tête, même si, heureusement, le ciel s'est remis à couler. Mais il en reste dans les piscines. Alors, je vous explique. Le marchand de piscine, eh ben, c'est un gars à l'échine souple et parfaitement adaptable, principe darwinien de survie. Les piscines hors sol sont interdites à la vente depuis mai 2023, ainsi que le remplissage et la remise à niveau. Bien, vous avez 27 000 piscines dans les Pyrénées-Orientales et 800 donc construites jusqu'à présent, chaque année. Donc c'est toujours un job hein, de commercial d'avenir. Car si la piscine hors sol est interdite de construction, la piscine enterrée, hein, quand vous creusez, est autorisée. Et pour la remplir, eh ben, on fait venir en camion pour 500 € de plus de l'eau d'Espagne ou de département pas trop loin. Avec obligation d'avoir une bâche anti-évaporation, c'est quand même déjà ça. Il n'y a rien d'illégal. Hein. On peut sereinement voir venir l'été de toutes les canicules. Et le manchot, lui, ne rêve pas de piscine, mais de glace bien solide, car il ne pourra jamais se réfugier ailleurs. Et qu'en pense-t-il des humains apprentis sorciers ? Alors faisons que nous ne soyons pas la dernière génération à crier « Vive l'empereur !» Et donc, ce dimanche de l'écologie de terrain, donc en balade dans la vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées, c'est avec Daniel Guilly. Nous allons ausculter, écouter, regarder les paysages, les chemins et les montagnes.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser, pas la peine de me dicter. Comment faire et quoi penser? Je m'isole, loin du sol, là-haut, dans une montagne, à faire des vagues, loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au seuil. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps. Y'a des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, je ferai mes vagues loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau.
qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts.
C'est toujours une valeur sûre, donc c'était Voyou seul. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Vous avez un bâton, vous avez des chaussures, c'est parti.
Alors ici on est sur un des plus vieux chemins de transhumance de la vallée, qui part du village d'Ancizan, qui est en vallée d'Or. La vallée du Louron, Denis, est derrière. Et en fait, ce vieux chemin nous mène vers la montagne dite des quatre Vézio. Alors Vézio, ça veut dire deux choses. Ça voulait dire les tâches, tout l'entretien des voies de communication, des voies d'eau, et tout ce qui permettait aux gens de ces vallées de pouvoir aller...
Vivre et communiquer.
Et voilà, tout simplement. Exactement comme ils le souhaitaient, quoi. Ensuite, Béziao, ça veut dire les voisins. En fait, ce sont quatre villages de la vallée. Ancizan, Cadéac, Grésian et Guchenne. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à rechercher, et je continue encore, à rechercher les vieux chemins, les vieilles voies. Parce qu'en fait, elles sont l'histoire d'une part, mais elles sont aussi quelque chose qui nous permet encore aujourd'hui de marcher. Mais de marcher tout simplement les uns vers les autres, quoi. D'aller à la rencontre.
Bienvenue en Vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Alors à l'origine, une vallée agricole, rurale. Et puis dans les années 1950-60, on a développé son territoire grâce à la manne apportée par l'hydroélectricité et les barrages EDF. Donc les bergers sont devenus moniteurs de ski, loueurs d'immobilier à Saint-Lary et ailleurs. Vallée d'Or, donc vallée de l'or blanc, mais jusqu'à quand? Question que se pose d'ailleurs la majorité des stations françaises. Donc dans cette vallée d'Or, qui signifie la vallée des brises et des vents, venue d'Espagne, de l'Atlantique, semée de l'inversion des températures et de la montagne, bien sûr, on se questionne. Alors au sud, vous avez la haute vallée d'Or, sur la route des 70 lacs extraordinaires et de la réserve du Néouviel au cœur du parc national des Pyrénées. Ça, pour moi, c'est un des plus beaux sanctuaires biologistes que je connaisse. Si vous voulez d'ailleurs le réécouter, vous avez un podcast sur le Néouviel que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Et en plus, maintenant, nous, on va vers le nord, entre Saint-Lary, Vieille-Laure et Arreau. Nous empruntons une ancienne voie sacrée de tradition romane. Et rendez-vous donc à Ancizan avec Daniel Guilly, qui est accompagnateur en montagne. Qu'est-ce que j'ai dit là? Accompagnateur en montagne? Ah non, moi je veux dire accompagnateur de la montagne, tellement elle l'a fabriquée et que ses mots sortent d'elle. Il en est l'interprète entre brebis, ruisseaux, granges, vautours, plantes, roches et bâtons, ouais, qui connaît donc les chemins de vie. Et Philippe Jugy, qui organise le festival du littoral à Saint-Lary, me dit « Va frapper au carreau de Daniel Guilly, on n'est jamais déçu, et il va t'emmener sur un chemin de lumière. »
Toutes ces voies... voit encore passer, et ça c'est génial, des pas de brebis, des pas de vaches, des pas de chevaux qui s'en vont vers l'estive. Et ça va pas tarder.
Car on n'a pas d'alpage ici. Attention, nous sommes bien dans les Pyrénées, donc ce sont des estives.
Ben oui. Parce qu'en fait, quelque part, ces petits mots, on les aime beaucoup parce qu'ils sont, ils sont tellement imagés, tellement propres aussi à un territoire. Mais surtout parce que c'est la montée vers l'été. Et ça, c'est pas rien, quoi.
Et les soulaines, c'est la montée vers le soleil, en quelque sorte.
Oui, la soulane, l'ombrée. Ouais. Tout ça, ce sont les mots, des mots de chez nous. Des bois comme celui-ci, ouais. Ce sont des bois d'Aubac. Ouais. Aubac. Des bois qui restent énormément à l'ombre, malgré tout, quoi. À l'ombre du massif de l'Arbison, ouais. Des crêtes de Lio Et donc, une magnifique sapinière, et très sapinière, puis un peu de hêtre et de bouleau, mais surtout du sapin, quoi. Et un peu d'épicéa aussi, quoi. Mais, tu vois, voilà, c'est tous ces mots, ils sont... on peut pas dire... Enfin, moi, je sais pas dire autrement. Ils font complètement partie de l'âme d'un territoire, quoi. Bien sûr. Alors, toi, ce qui est génial aussi, sur ce bord de chemin, eh bien, c'est de voir que petit à petit, la floraison démarre. Ouais. On a des violettes, on a quelques anémones hépatiques, on a des élébores, les élébores fétides. Alors voilà, ça, ça démarre, ça y est. Mais cet hiver, cet hiver a été bien particulier. Ouais. Cette floraison, elle a commencé dès le mois de janvier. Mmh. Alors bon, évidemment, c'est pas bien bon tout ça. Hein. C'est pas bien bon. Et faut avouer que ça questionne, de toute manière. Et si on ne se questionne pas, alors c'est qu'il y a quelque chose qui
cloche. Qui ne va pas dans le cerveau. Ouais.
Et un hiver comme celui-ci, ben c'est un hiver qui sera aussi marqué dans les annales, parce que quelque part, il est aussi particulier que celui de 2013, où en haute montagne, on a eu 14 mètres de neige. Quoi. Et donc...
Et qui est tombé après.
Cette année, la neige est arrivée il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, ma foi, on fait avec elle. Et surtout, ce qu'il faut absolument bien réfléchir, c'est à la véritable importance de la neige, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'elle représente. Parce que ben, nous, dans les vallées, évidemment, on en a besoin, mais cette eau, elle s'en va jusque dans le département voisin du Gers.
Oui, avec le cordon ombilical qui est la Nest, donc c'est 27 km, et qui va... arrosé, abreuvé, enfin en grande partie le Gers et puis un petit bout d'autres départements.
Et puis amener aussi de l'eau potable à une grande ville qui est Auch. Ouais. Donc ne jamais oublier à quel point tous les massifs de montagne du monde sont de fantastiques châteaux d'eau et qui abreuvent et qui permettent de vivre à des milliards de personnes, quoi. L'essentiel. Mais en fait, cet essentiel, je pense que tout le monde le connaît puisque, évidemment, il en a besoin. Et la nature en fait tellement partie. Mais à l'heure actuelle, ce qui manque, je trouve, beaucoup, c'est d'abord le temps. Ou en tout cas le temps qu'on y consacre. Et puis assez fréquemment aussi, pas mal, le manque de curiosité. Je trouve que, au fil des années, petit à petit, j'entends parler du retour à la nature, du besoin de nature. Mais en fait, je me rends compte à quel point ben les gens reviennent à la nature, oui. Ont besoin de nature, oui. Mais qu'ils ont plutôt tendance à la consommer, quoi.
Bien sûr.
Et ça m'attriste, j'avoue, quoi. Ouais. Après, je me dis une chose aussi, c'est que quand même, et restons positifs, hein, ben ces gens-là sont dehors. Ils sont dans la nature malgré tout.
On peut espérer qu'il y a un déclic.
On peut.
Une curiosité qui va arriver.
On peut espérer
un émerveillement.
Voilà, que ces gens-là, eh bien... soit petit à petit amené à se dire waouh, merde, mais c'est beau ici, quoi.
Ouais. Ah non, de Dieu, regardez-moi ça. C'est magnifique. Quelle majestuosité. C'est splendide. C'est merveilleux. Regardez la montagne. Allez, on y va.
Si on faisait une pause.
Et là aussi, donc il y a aussi le travail des humains, puisqu'un paysage, c'est toujours la résultante entre la géologie, le climat, la culture et le travail des humains.
C'est ça.
Et là, on est en plein dedans, d'ailleurs. C'est, si on grimpe ce chemin, c'est bien ça. Donc,
Ah bon, ça oui. Et tu vois, si je t'emmène par là,
ouais.
Si je vous emmène par là,
oui, t'inquiète pas.
C'est simplement parce que c'est un des endroits de la vallée où on a, malgré la présence des noisetiers et de quelques envahisseuses comme les fougères, ouais, on a encore un val qui est ouvert, parce qu'il est pâturé, parce qu'il y a encore de la vie pastorale. Alors dans la vallée, il y a plein d'endroits où on a vu petit à petit la végétation se réinstaller, où petit à petit, en l'espace de 50 ans, quoi, en gros, le paysage s'est mais totalement modifié, quoi. Et alors, petit à petit, bien, moi je suis heureux de savoir qu'ici, dans quelques semaines, tu vois, les vaches en bas, quelque part, les brebis vont monter dans très peu de temps aussi, quand l'herbe sera un peu meilleure, un peu plus haute. Et là, on va réentendre les sonailles. Les sonailles, ce sont ces cloches que l'on met au cou des bêtes, mais qui sont la musique La musique du printemps, de l'été et du début de l'automne.
Alors là, là, on se le permet parce qu'on est à la radio. Et comme j'en ai enregistré plein, on vous en offre. Donc voilà, là, ça y est. Écoutez, nos soleils sont en train d'arriver. Continuez, Daniel.
On va monter jusqu'à un petit endroit qui s'appelle la Piquette, quoi. Alors ça grimpe un peu plus raide, mais... Oh.
La Piquette, parce que c'est un petit pic, ça n'a aucun rapport
tout
avec
petit.
Le... Oui, d'accord, la Piquette. Quoi.
Tout petit, vous allez voir. C'est vraiment un petit endroit... assez sympa avec des granges, enfin au moins une en tout cas qui sert encore justement au pastoralisme.
À nos pieds, bah, les merveilleux chardons.
Le cœur de la Cardoune.
La Cardoune, Cardère.
Et là une petite cousine qui s'appelle la Caroline argentée.
Ah ouais, c'est la Caroline, ça.
Et la Cardoune, c'est le soleil, tu sais, avec des pétales un peu jaunes. Et alors ça, c'est l'hygromètre parfait. Même sec, même dans cet état-là, c'est-à-dire le cœur séparé du pied, hein, eh bien, on le plonge dans l'eau et ça se referme instantanément. Bon, les anciens, ils en mettaient sur les portes des granges, ils en mettaient sur les portes des maisons et ils avaient un magnifique baromètre, quoi.
Bon, ils doivent en mettre sur les portes de Météo France, alors. Bon, ils devraient, peut-être.
Quoi?
Rien. J'ai voulu lui faire peur, il n'a pas bougé d'un poil. Il est peut-être sourd. C'est sourd, les ours?
Ils ont certes de petites oreilles, mais franchement, je n'en sais rien. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il nous a senti un excellent odorat.
Bon, on a de la visite de l'ours un peu ici, dans les sujets qui fâchent ou pas, là?
Oh, ben ça arrive, oui.
Ça arrive, normal, hein, chez lui. Hein.
Évidemment, c'est un animal, voilà, qui est là, qui a été remis dans ces montagnes. Te dire que, au niveau pastoral, on l'accueille facilement.
Non,
bien sûr.
Géré, quand même.
Mais il est clair que. Eh bien, il fait partie de ce grand échiquier de la biodiversité, alors bon. Mais ce qui m'inquiète aussi, tu vois, c'est évidemment de voir son nombre augmenter. Je vois aujourd'hui qu'on va atteindre et dépasser les 80 ours.
C'est ça, c'est 80.
Donc en fait, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir un tel déséquilibre entre ce grand prédateur et la vie pastorale? Et est-ce qu'il ne va pas falloir se réinterroger à nouveau sur le devenir de cette économie multiséculaire et peut-être faire en sorte quand même à ce qu'on réfléchisse vraiment à l'importance qu'elle a et qu'elle aura toujours au milieu de ces paysages, quoi. Alors voilà, depuis la Piquette, on va avoir une vue qui va s'ouvrir un peu sur l'entrée de la vallée.
J'adore, moi, ces derniers mètres. Parce qu'on voit d'un seul coup, oui!
On découvre plus loin.
Voilà!
Ici, un jour, j'ai rencontré du côté de Cotteret un monsieur que vous connaissez aussi, qui s'appelle Jean-Paul Camp.
Eh oui.
Voilà.
C'est un monsieur Bouquetin, monsieur Chat, monsieur voilà. Isard aussi.
Mais pour moi, ça a aussi été monsieur Rocher.
Ouais.
Un jour, on s'est approché d'un bout de granit, parce que là-bas, c'est plutôt du granit.
C'est ça.
Et là, il me dit regarde, tu vois ici, des diaclases, les fameuses petites fissures qui s'en vont dans le granit. Mmh. Et bien dans ces diaclases, il y a de l'eau qui passe. Cette eau qui passe devient de la glace, ça fait éclater les rochers, mais pas partout. Dans d'autres types de rochers, tu as des lapias, toutes ces failles qui s'en vont. L'eau s'y stocke un petit peu. Alors à partir de là, on a de la mousse, on a des lichens, on a des plantes herbacées, on a des plantes à graines. On a des plantes à fleurs, comme les petits orpins, qui sont,
ils sont là.
Des plantes incroyables, qui sont des plantes du désert, quoi.
Ouais.
Donc en fait, quand on s'approche d'un bout de caillou, eh ben en fait, on s'approche d'un jardin, quoi.
J'adore. Sensibilité, cours de SVT à ciel ouvert. Voilà, ben c'est ça, Daniel Guilly. Restez avec nous, parce que nous avons une grange qui nous attend. On va se mettre un petit peu au chaud, ouais, ça fait tranquillement. Et ben, tenez, après cette jolie chanson...
Je disais jolie chanson, mais en fait, je ne savais pas. Hein, c'est Je suis la montagne. C'était spécial. Ah ouais, c'était spécial. J'ai découvert comme vous. C'était Modoïde.
Il paraît que c'est la fin du monde.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
CO2, mon amour.
Tu n'es pas au courant ? La glace est en train de fondre.
Regardez le sol, il est recouvert de glace. Il y a un millier d'années, il était déjà recouvert de glace. Et dans un millier d'années, il y aura toujours cette même couche de glace.
Ouais, 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 ouais.
Je voudrais surtout pas avoir l'air de mettre en doute ton instinct de survie, mais vous, les mammouths, vous seriez pas une espèce légèrement éteinte ?
Les mammouths peuvent pas s'éteindre, ce sont les plus gros animaux de la Terre.
Sur France Inter.
Oui, bah vous mettez les mêmes paroles dans celle d'un humain et ça marche aussi, donc très très bien. Eh bah oui, c'est en train de fondre. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce qu'en fait, on a enregistré donc cette séquence, cette émission avec Daniel Guilly, donc il y a à peu près un mois et demi. Mais c'est très beau, hein. Et là, eh bah, ben 1er mai, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu de la neige absolument partout, quasiment à 800 mètres d'altitude. Alors on poursuit donc cette lecture du paysage dans cette vallée d'or, dans les Hautes-Pyrénées et dans le ciel. Eh bah, ben on voit quoi? On voit des grands voiliers, des grands rapaces.
Dans la vallée d'Or, jusqu'à il y a à peu près 25 ans, 30 ans, les vautours étaient de passage. Ils venaient en semi-transhumance depuis l'Aragon, depuis l'Espagne. Ils venaient chez nous, le temps de l'estive, et ils repartaient.
Ils font comme les touristes, ils ont acheté un coin et...
Voilà, petit à petit, dortoirs, ils sont dans la plaine de Camousse ou bien dans d'autres endroits, mais principalement là-bas, où il y a des lieux de nidification, et ils se sont sédentarisés. Alors évidemment, des hivers rudes comme celui de 2013, on en a trouvé morts dans le bas de la vallée parce qu'ils étaient redescendus, parce qu'il y avait des biches, des cerfs qui étaient morts de faim et de froid dans la neige. Et eux, ils ont profité de cette manne, mais avec l'impossibilité de pouvoir repartir.
Oui, parce qu'en fait, ils sont lourds.
Voilà.
Il leur faut soit un surplomb et puis surtout, il leur faut des ascendants. Quoi.
C'est ça. Là, on a aussi par ici le gypaète barbu. Qui,
le casseur d'os.
Qui niche un petit peu par chez nous. Ce magnifique oiseau qui est le plus grand des rapaces d'Europe avec son beau plumage orange ou blanc d'ailleurs, parce qu'il n'est pas toujours orange. Je ne sais pas si le orange, ça vient du fait que cet oiseau aime se baigner dans les sources ferrugineuses, dit-on.
Ah, donc l'eau ferrugineuse, quoi.
Voilà. Voilà. Et comme on a pas mal de sources ferrugineuses par chez nous, il en profite allègrement, quoi. Ouais. Et alors, dans ce grand massif de l'Arbison qu'on a devant les yeux, un massif qui monte à 2831 mètres d'altitude, eh bien, on a diverses crêtes, diverses parties du massif. Donc devant nous ici, la crête de Lio, comme on l'appelle. Alors Lio, Lit, Litouez, Litber, Lia, la Li, tout ça c'est les avalanches, quoi. Et en fait, quand on regarde la pente, les pentes qui montent vers la crête, on voit bien tous les couloirs qui sont marqués, vraiment marqués, avec évidemment en bas des cônes de déjection avec des avalanches dessus, quoi. Et puis après, il y a un petit cirque là-haut.
Oui.
Et dans ce petit cirque, bien justement, les brebis montent au printemps et en été. Donc il y a le projet là-haut de construire une nouvelle cabane, justement, pour les bergers. Et alors, ce qui nous ravit énormément, c'est qu'on voit aussi la profession se féminiser. Et cette profession qui se féminise nous amène à avoir des personnes qui sont au contact des animaux, bah, qui ont un autre feeling, une autre manière d'aborder tout ça. Et alors, ce qui est pas mal aussi dans le fait de construire ou de rénover des cabanes avec pas mal de place, c'est d'y voir aussi... pas partout, bien sûr, mais dans pas mal d'endroits quand même, aussi bien dans le Béarn qu'ici en Bigorre, remonter vers la montagne des familles entières.
Ah.
Donc ça veut dire à nouveau de la transmission. Et ça, c'est bon.
Bon, vas-y, raconte-nous, Daniel, le mouton, le vin.
Bien souvent, les gens regardent un troupeau et c'est un troupeau de moutons.
Ouais.
Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mouton ? Le troupeau, c'est 90-95% de brebis.
Ouais, c'est ça.
Il y a les béliers. Et le mouton, c'est le bélier castré. Donc en fait, dans un troupeau, il y en a très très peu. On est souvent avec des animaux plutôt reproducteurs, pour pouvoir avoir évidemment la suite pour l'éleveur, quoi.
Oui, on dit troupeau de mouton, c'est un terme générique, mais en fait, non, c'est pas la majorité de l'espèce.
Et non. On va ouvrir cette vieille barrière.
Oui.
Hop là. Voilà là, la grange de la famille Treil.
Il y a quelqu'un ?
Et là... On lève le crochet, on tourne à la clé, qui tourne à l'envers, tu vois. Celle-là, elle tourne à l'envers. Et hop, une porte à double battant, un battant haut et un battant bas. Le battant du haut pouvait rester ouvert pour faire rentrer de l'air pour les bêtes quand elles y étaient, en particulier l'hiver, pour qu'elles aient toujours de l'aération.
Ça sent bon, les râteliers, tout
ça. Et là, malgré que ce soit une grange qui serve de moins en moins, mais voilà, on y sent encore le parfum du foin. On a encore les râteliers qui sont là.
Ah, et puis nos petits nids. Bah oui, bien sûr.
Le rouge queue, très souvent.
Ah, c'est le rouge-queue ici, d'accord.
Ouais. Souvent, c'est le rouge-queue à l'intérieur, ouais. Okay. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette grange, parce que c'est une des dernières que je connaisse, ben, qui soit encore comme elle a toujours été, c'est-à-dire avec voilà, ce petit espace pour le verger, le bâcher ou le verger, et tout l'espace ensuite pour les bêtes, quoi. Et alors, chose particulière aussi, cette grange, on y a joué une pièce de théâtre, hein, tout au fond, lors d'une manifestation culturelle en 6 ans. Un jour, il y a une petite troupe de théâtre qui est montée ici, avec des petits éclairages tout au fond là-bas. Des personnes étaient placées un petit peu dans la grange, quoi. Et on a écouté une belle pièce de théâtre.
C'est bien.
Eh bien, on va refermer cette grange trésor. Dis donc, il y a un truc qu'on n'a pas regardé.
Ah non.
C'est ça aussi. Un truc que j'ai rarement vu dans nos montagnes, à cette taille-là. Hein. J'en ai vu en bois, mais j'en ai rarement vu en pierre.
Allez.
Deux abreuvoirs. Taillés dans le calcaire, qui sont vraiment taillés dans la masse.
Oui.
Et puis alors, il y a quelque chose pour lequel je reste complètement admiratif toujours, c'est les kilomètres de murs en pierre sèche. Quoi.
Qu'est-ce qu'ils ont porté ça, dos de mulets, dos de vaches, dos d'hommes?
Dans toutes les montagnes du monde, on retrouve ça. Même dans beaucoup d'autres paysages qui ne sont pas forcément des montagnes, mais en fait, c'est cette délimitation.
Oui.
Mais c'est souvent aussi ces pierres qui ont été sorties de la terre par les labours et qui ont été mises sur les côtés, entassées de façon plus ou moins irrégulière. Mais là, voilà, des murs magnifiques qui mènent vers une autre grange qui devrait, normalement, dans les années qui viennent, devenir complètement autre chose.
Mmh.
Certainement un lieu d'habitation, un lieu de vacances en tout cas, mais au moins ça permet de garder les bâtisses debout.
Elles ressortent aussi.
Et, oui. Et les bords toujours verts.
Ça y est.
Quasiment en fin de floraison.
Ouais.
Il y en a encore en fleurs, mais voilà, il y en a déjà avec des sacs à graines. Et puis les bords fétides qu'on a rencontrés tout à l'heure. Et la Daphne l'auréole qui est ici. Et bien voilà les premières à fleurir même pendant l'hiver, quoi. Et alors celle-ci, elle a un parfum de miel, mais exquis, quoi.
Alors là, avec ce couvert forestier, c'est évidemment un régal pour les mammifères.
Oh là là. Ici, à l'époque du brame, on entend au moins une dizaine de cerfs bramer dans le val. Alors derrière, ça veut dire beaucoup de biches aussi.
Ah, alors là, Daniel, avec vos jumelles, là, bien tankées, en train de regarder, et peut-être d'aller chercher l'isard.
Ah. Et c'est-à-dire que là, au pied de l'Arbison, comme il y a encore pas mal de neige, je regardais dans les petites falaises qu'il y a pas très loin d'ici. Et en général, c'est par là qu'on peut le trouver. Je ne l'ai pas vu, mais comme il fait chaud, il se peut qu'il soit remonté aussi. Parce que comme il est plus chaud que nous, il a 2 à 3 degrés de plus que nous en température corporelle. Donc il a besoin de plus de fraîcheur et forcément, il doit être un peu plus haut. Mais comme en plus, pendant l'hiver, il a un pelage qui est vraiment, vraiment en mimétisme avec son milieu.
Oui.
Alors, il n'est pas toujours facile à déceler, quoi. Puis on est un peu loin aussi, mais bon. Puis c'est un animal incroyable. Quand on passe un petit peu de temps à l'observer, voire beaucoup de temps, parce que, justement, des fois, on tombe sur des hardes qui sont... Nous, on est face au vent, donc ils nous entendent pas, ils nous sentent pas. Et dans ces cas-là, on a tout le temps de l'observer dans tous ses comportements, quoi. Les comportements des vieux mâles qui apprennent aux jeunes la territorialité, des femelles qui protègent le petit, qui le font téter. Enfin, il y a tellement, mais tellement de choses, quoi.
Parlons du pas en montagne.
Du pas ?
Ouais, c'est-à-dire ce pas obligatoirement qui est lent, qui doit être assuré. Mais c'est quoi ces caractéristiques, on va dire, pas du montagnard, quoi.
Ben, il permet d'aller à la rencontre, d'aller vers. En marchant tranquillement, on arrive à se parler. Si on marchait plus vite, on ne pourrait pas, parce qu'on serait essoufflé. Et marcher tranquillement, ça permet surtout d'être là, d'être vraiment là. Si on marche trop vite, à mon sens, alors on passe très vite, sans même percevoir. Si en plus on marche plus vite et pire si on court, bon voilà, cette mode du trail aussi, elle est là, mais j'avoue qu'il y a des moments où je me dis, mais pourquoi vouloir aller plus vite, pourquoi vouloir aller si vite, alors qu'on a toutes ces merveilles là autour, alors qu'il suffit de s'arrêter un moment pour humer, pour respirer, pour sentir, pour écouter. J'ai appris à marcher en montagne avec des évidemment bien plus anciens que moi. Et ces anciens m'ont appris à marcher doucement parce qu'il fallait arriver en haut, mais avoir la force de redescendre. Et si on va trop vite, on s'épuise. Ouais. Et quand on est en haut, on se dit, oh là là, la vache, il faut redescendre. Mais je suis fatigué.
Savoir s'économiser.
Savoir s'économiser.
Daniel, quand même, quelqu'un, j'allais presque dire un être essentiel, c'est le bâton, votre bâton, vous ne l'avez pas présenté.
Alors mais ce bâton, ça fait pas mal d'années que je l'ai comme compagnon, ouais. Comme compagnon de marche, parce qu'il est compagnon de beaucoup de situations, en particulier quand on est dans des pentes un peu raides. On ne l'utilise plus à la verticale, on l'utilise à l'horizontale, ouais. En venant s'appuyer sur la pente, quoi. C'est un bâton de noisetier, alors il faut le couper à la belle lune, comme on dit, la bonne lune de décembre.
Et bois solide.
Et bois très solide, très très solide et suffisamment souple pour résister des fois à des pressions qui sont conséquentes. Parce que quand des fois on se retrouve dans ces pentes raides et puis qu'il faut appuyer dessus, il faut savoir y compter. Quoi. Ce bâton, il est un peu comme un bâton de compas aussi. Avec ces jeunes bergers et bergères qu'on forme, eh bien, tous les mois de décembre, à la bonne lune, on va dans les noisetteries, on va se couper des bâtons bien droits, qu'on fait sécher pendant pratiquement un an. Et ces jeunes bergers qu'on forme, eh bien, les bergères transmettent ça aux futurs stagiaires qui viennent en formation. Quoi. Donc c'est un petit peu le
témoin.
Voilà. Ouais.
Daniel, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter?
Ah, que cette belle nature continue de nous nourrir, mais que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, eh bien, après nous réapprennent à s'en nourrir. Quelque part, je me dis toujours que, en apprenant, en connaissant, on est à ce moment-là capable de respecter. S'il n'y a pas cette éducation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça fait déjà au moins 50 ans qu'on nous parle de la protection de l'environnement. Je veux dire, ça pourrait bien durer encore 50 ans, quoi. Ouais.
Eh bien, ne le souhaitons pas, voilà. Merci, Daniel Guillet, et puis à très bientôt.
Eh bien, Denis, c'est moi qui vous remercie.
Alors évidemment, quelqu'un qui vous parle de bâton, de marche, de grange, de brebis, de ruisseau, d'être présent, j'ai un peu l'impression, moi, d'être un ovni. Et en même temps, c'est une inspiration extrêmement forte, j'en suis certain, pour beaucoup d'entre nous et de personnes qui sont dans la moulinette, donc urbaine. Alors CO2, mon amour, oui, l'émission qui chuchote à vos oreilles, la nature, mais aussi l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Et on fera aussi de même, mais ça va être complètement autre chose, on sera sur une rivière la semaine prochaine, après avoir donc quitté Daniel Guilly, on va se retrouver sur le Tarn. On va être en Lozère, dans les gorges du Tarn. Et là aussi, vous allez voir, on va apprivoiser donc le silence. Ça va nous faire beaucoup de bien cette semaine prochaine. Il me reste à remercier Anne-Laure Cochet qui a mixé ce reportage, Camille Blanès et Juliette Gou qui a réalisé l'émission. Merci également à Thierry Dupin. Donc, Gorges du Tarn, vous l'avez compris. Je peux vous retrouver alors un peu sur X, mais pas mal sur Instagram et aussi sur LinkedIn. Et puis, si vous le souhaitez, bah vous abonnez au podcast de CO2, mon amour. Hein, ça se réécoute à peu près n'importe quand vous le désirez. Et puis aussi, vous avez donc cette série, donc cette collection Paroles de Piaf. Je vous en ai déjà parlé. Vous allez sur l'application Radio France et là, vous trouvez tous les oiseaux. Allez, très bonne fin de dimanche.
Maintenant sur France Inter, Antoine Chao et c'est bientôt demain.
Alors, la carte. On est là, le pont, il est là. Hein. Bon, le but, c'est vraiment d'essayer de voir quelles espèces sont encore présentes sur site. Techniquement, si aujourd'hui, on arrive à voir de la pipistrelle ou du moineau qui niche dans les bâtiments, ils n'auront pas le droit de continuer à détruire. Aujourd'hui, on a du mal à faire annuler un projet parce qu'il y a des espèces protégées. Par contre, on peut le faire retarder, voire le rendre trop cher. Parce qu'il faut des nouvelles études, parce qu'en report, ça coûte des sous, et ainsi de suite. En tout cas, le but, c'est vraiment d'amasser un maximum de données, de voir qui est présent aujourd'hui en non-humain sur la zone, et puis de voir comment on peut s'allier avec eux pour demain continuer de lutter contre ce projet gigantissime et écocide.
beau, 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 beau. C'est beau, bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est beau, bientôt.
On va pas tarder à partir.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
On va faire trois groupes. Il y aura un groupe botanique avec moi. Et il y aura deux groupes données opportunistes, c'est-à-dire vous notez tout ce que vous voyez et que vous savez nommer. Il y aura un groupe ici, le long de la verge, pour voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Et il y a des endroits où vous avez un beau point de vue sur le projet. Et donc, deux groupes qui vont aller de l'autre côté, c'est à 10 minutes à pied, du côté du projet, où là, on pourra inventorier la zone en botanique et donc en faune opportuniste. De toute façon, aujourd'hui, on fait des inventaires éclairs. On refera quelques inventaires ultérieurement. On en a fait il y a un mois, on en refera dans un mois et ainsi de suite.
C'est Cam qui mène l'inventaire éclair. C'était le 27 avril, à l'initiative des naturalistes des terres, pour une alliance avec le vivant humain et non humain. Une vingtaine de citoyens se sont inscrits aux différents groupes pour y participer, dont Emeline et Nestor. Et je vais les suivre parce que ce projet, gigantissime et écocide, est symptomatique de l'empire logistique qui étend son emprise dans une course effrénée à toujours plus d'infrastructures bétonnées, de plateformes logistiques, de réseaux routiers, fluviaux, maritimes, toujours plus denses, toujours plus rapides pour acheminer au plus vite les marchandises livrées à domicile, consommer toujours plus et toujours plus vite. Oui, il est urgent de ralentir et de résister aux nouvelles tyrannies de l'immédiat, d'autant plus quand elles détruisent les écosystèmes. Et je m'étais déjà intéressé à la mobilisation contre Green Dock menée par les riverains côté Épinay sur l'autre rive de la Seine. Alors je retrouve Cam, de son pseudo de naturaliste des terres, dans le port de Gennevilliers, aux abords de la friche industrielle où est projeté Green Dock à l'heure de l'entrepôt Seine. C'est quoi les naturalistes des terres?
Alors c'est des naturalistes, amateurs ou professionnels d'ailleurs, mais pas que, c'est aussi des sympathisants ou juste des amoureux du vivant. Jusque-là, on se sentait juste comme observateurs. C'est-à-dire que nombreux d'entre nous, on est en bureau d'études, on est en association, et on fait des inventaires faune-flore, notamment dans le cadre de projets. Et donc on se retrouve, et moi ça m'est arrivé, mais du coup j'ai arrêté, mais on se retrouve à devoir dire, bon bah là il y a des enjeux, là il n'y en a pas, alors que enfin pour moi il y a des enjeux partout. On ne peut pas juste décider qu'on veut un nouveau port de plaisance ou un nouvel entrepôt logistique et décider qu'on peut détruire ainsi les moineaux et les chauves-souris. Enfin, en fait il faut qu'on revoie nos besoins réels et au-delà de nos envies, que ce soit des envies dans le cadre de projets économiques, de développement, de croissance, de tout ce que vous voulez quoi. Et donc on a voulu agir au-delà en fait des clés que nous donne la justice, puisque en fait ça suffit clairement pas.
Et du coup comment on fait pour pas faire au même endroit?
Vous allez partir par là avec la friche, et nous on va partir de l'autre côté jusqu'au bout.
Grave,
et puis si on se croise, c'est pas très grave.
Vous
allez là et au bout là où il y a le mur, il y a la friche. Et après vous allez aller sur la droite, je crois qu'il y a accès à la berge. Typiquement, les petits oiseaux là, vous les connaissez?
Des mers là?
Non.
Ah non.
Je pense qu'il faudrait se rapprocher peut-être. Piquant au sol comme ça, ils doivent avoir des petites taches.
Des pouillons?
Vous les connaissez, c'est les étourneaux.
Ah, c'est ça.
D'accord.
Ils vivent en bande. Les merles, ils sont plutôt en couple ou seuls.
Oui.
Alors que les étourneaux, ils sont en bande comme ça.
Ils sont vifs.
Ils sont vifs et en général, ils sont pas très farouches quoi.
Ah oui, ils ont des.
Là, on est vraiment pas loin et il y en a une petite quinzaine.
Donc tu notes.
Bon, je vais juste noter tourneau. Hop, localisation, on est près de la friche et on a dit qu'il y en avait une quinzaine. Hop, et il picore. Donc les étourneaux, leur spécialité c'est d'imiter en chant. Et donc ils ont une gamme de vocalises très grande. Et celui qui imite le plus d'oiseaux, et ben, c'est celui qui a le plus de copines. On va aller sur la gauche là.
Stop Green Dock.
C'est le hangar justement là qu'on voit là.
Voilà.
L'ancien hangar donc qui va être remplacé, enfin qui fait partie du site Green Dock.
Ils sont en train de démolir. Et donc faut imaginer que le hangar qu'ils veulent construire donc sera en longueur. Moi, il part du début et il va quasiment jusqu'au bout quoi. 600 mètres. Ouais.
600 mètres de long et 35 mètres de haut.
Oh, ouais, il y a quand même la démolition qui a bien démarré. Hein.
Ouais. Et de fait, maintenant, en fait, le fait que les bâtiments soient ouverts, comme ça, ils sont soumis à tout ce qui est courant d'air, changement de température et autres. Donc c'est beaucoup moins favorable pour certaines espèces. Les moineaux pourraient continuer de nicher. Les rouges-queues aussi, donc les oiseaux, certains oiseaux que ça dérange moins. Mais les pipistrelles, donc les chauves-souris, elles aiment beaucoup moins. Mais c'est aussi une stratégie hein, de déloger les espèces. Déjà, ils ont fortement diminué le fait que les espèces puissent nicher. Et puis en plus, de toute façon, il n'y a pas que ça. Donc ça va être compliqué de prouver quoi que ce soit.
Donc là, on a contourné tout l'ancien entrepôt et on arrive en bord de Seine. Donc on est du côté Gennevilliers, il y a Épinay-sur-Seine en face. Il y a le pont de l'autoroute là.
Donc l'idée c'est d'inventorier donc les berges de la Seine à partir de là et puis jusqu'où on pourra aller. C'est-à-dire que là on a des berges de Seine qui sont quand même arborées. Donc ça on va dire que c'est un milieu homogène. Et si au-delà, quand on va arriver au petit transect qui longe là, à mon avis, il y aura beaucoup moins d'arbres. Et ce sera juste une plateforme et autre. Là, ce sera une autre fiche de relevé. Il y a un autre milieu. C'est parti. Là, la petite fleur violette.
C'est l'herbe à Robert ?
Exactement, c'est un géranium.
L'herbe à Robert ?
Ouais. Donc, strate herbacée. Ici. Il est rigolo, celui-là, il s'accroche aux vêtements.
Salut !
Donc, c'est le gaillet gratron. Et je vais rajouter l'oiseau qui chantait là. C'est la fauvette à tête noire. Elle a une voix qui est un peu comme le merle, un timbre assez fort. Et la phrase est assez longue. Et elle pose une question à la fin. Le ton monte.
Ah oui.
Il me semble que ça, c'est du fenouil. On va peut-être ouvrir le guide quand même.
Ouais, parce oui, que ça ressemble à du fenouil.
C'est pas une plante que je vois souvent et du coup, j'aime bien vérifier.
Fenouil commun.
Petite quoi, segment long, filiforme, pas tous dans le même plan. Et en fait, c'est pour le différencier du fenouil des Alpes, où là, la feuille, c'est la même, sauf qu'elle est plate. Alors que là, vous voyez, elle est plutôt en volume.
C'est quoi cette Bible ?
Guide de la chaux des fleurs de France et d'Europe. Les grandes feuilles, c'est la patience sauvage.
C'est pas mal, la patience sauvage. Hein. les naturalistes des terres, la patience sauvage. Les soulèvements de la terre.
Hop, là on a un laitron. Ça doit être le laitron maraîcher, mais il y en a plusieurs en début de saison. En général, j'aime bien me les rappeler. Donc, c'est la famille des astéracées et de la famille des pissenlits. Quoi.
Je trouve ça génial ces balades parce que j'ai l'impression que le monde s'ouvre en fait. Que là où tu voyais rien, tu vois plein de gens, plein d'animaux, plein de plantes. Enfin, c'est un grand plaisir.
Donc là on n'est plus sur la ronce bleue, quand elle a trois folioles seulement. Et quand on la retourne, la feuille est blanche. C'est la ronce à feuilles d'orme.
En attirant l'attention sur ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qui existe, sur tout ce vivant qui est là, et donc une dimension esthétique, on pourrait davantage amener les gens à accomplir des actions ou prendre des décisions politiques et écologiques.
Il y a un bateau qui est passé, c'est ça ? Ah oui, c'est le bateau qui fait ça. Incroyable. Et alors ça, ils appellent le battement de l'eau. Et en fait, ça, plus il y en a, et plus vous avez les berges qui s'érodent. Et donc, c'est problématique, entre guillemets, puisqu'en fait, ça cause l'érosion sur les berges. Quoi.
Et là, Nestor, ce qui se passe pour Green Dock, c'est justement la Seine qui est un des arguments, c'est-à-dire qu'il y aura certaines livraisons qui seront faites par la Seine, donc c'est Green, quoi. C'est Green Dock, quoi.
Un prétexte pour Green Dock, effectivement, c'est que on est au bord du canal, au bord de la Seine, et donc il va y avoir des péniches, et puis c'est écolo par rapport aux camions. Mais d'une part, il va y avoir énormément de camions, jour et nuit, et ils entreront dans le bâtiment jusqu'au cinquième étage, enfin ça sera un flux sans fin. Et d'autre part, si on s'intéresse à la Seine, aux canaux, le projet Green Dock est un petit peu lié au canal Seine-Nord-Europe, qui va détruire beaucoup de choses dans les Hauts-de-France, et donc il va y avoir aussi une industrialisation des flux de péniches. Donc ça n'a rien de, d'écolo. Tout ça, c'est de la logistique, c'est de la gestion des flux. Et bien sûr, ça va à l'encontre de tout ce qui peut être environnemental, etc.
Alors, on peut regarder les empreintes, des fois. Là, je ne reconnais pas. Si, là, ça doit être du ragondin, là. C'est une espèce intéressante pour moi parce qu'elle est considérée comme invasive. Ouais. Et souvent, on dit « Oh, il détruit les berges, c'est pas une bonne espèce et tout. » Et en fait, si on retourne la chose et qu'on se met du point de vue de la rivière et qu'on connaît la dynamique de la rivière, en fait, une rivière, logiquement, c'est pas figé comme ça. Là, c'est canalisé, on a mis du béton, la rivière, elle peut pas changer de cours. Ouais. Mais logiquement, ça évolue le cours et il se décale de quelques mètres, voire de plusieurs dizaines de mètres s'il y a une crue et qu'elle se crée un nouveau bras. Et j'ai tendance à dire que le ragondin, en fait, il aide la rivière à retrouver sa dynamique naturelle. Et donc là, le problème, c'est plus le ragondin, c'est nous qui avons canalisé les berges et qui empêchons la rivière d'avoir sa dynamique. Et le ragondin, finalement, devient un allié de la rivière, alors que, de notre point de vue, quand on a mis notre chemin à 1 mètre de la rivière et qu'il détruit les berges, ça dérange, quoi.
C'est la nature qui se défend.
On a une aubépine aussi qui essaye de pousser là, au milieu des robiniers, avec les feuilles très divisées.
Après, il y a toute la faune aquatique, hein, c'est ça?
Il y a toute la faune aquatique. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste de ce qui vit sous l'eau. Après, je sais que dans l'étude d'impact, ils avaient trouvé 26 espèces de poissons, je crois. Quelque chose comme ça. Le problème étant toujours le même, l'enjeu, c'est est-ce qu'il se reproduit sur place? Est-ce qu'il s'abrite sur place?
C'est bientôt demain.
Et pour voir ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau,
Antoine Chao,
je vais demander à Maxime Zucca.
Sur France Inter.
Alors sous l'eau, moi je suis plutôt en surface, mais sous l'eau, il y a plus d'une trentaine d'espèces de poissons maintenant dans la Seine. C'est en augmentation. On a des gros monstres comme les silures qui étaient absents avant, qui sont des poissons qui ont été introduits, mais qui sont très recherchés par les pêcheurs qui aiment faire du gros. Mais on a aussi du brochet, on a aussi... Alors c'est principalement sinon les poissons blancs type gardon, rotangle qu'on va trouver. On peut avoir des anguilles dans la Seine dans Paris, quand même une espèce en danger critique d'extinction. Et puis, il y a quelques poissons migrateurs qui arrivent à passer par la Seine, les aloses, mais en très petit nombre, parce que la Seine est barrée à plein d'endroits. Ensuite, dans la Seine, il n'y a pas que des poissons. Il y a de plus en plus de cygnes qui sont arrivés sur la Seine à Paris, alors qu'avant, ils les évitaient. En lien avec ça, il y a des mollusques, il y a des bivalves. Par exemple, il y a la moule des peintres qu'on va trouver accrochée à certaines péniches. Il y a des toutes petites méduses d'eau douce. On est très loin, par contre, du potentiel. Si jamais on remonte à ce qu'il y avait potentiellement dans la Seine au XVIIIe siècle, à l'époque, il y avait même de l'espadon, il y avait beaucoup plus de saumon. Parfois, les marsouins pouvaient remonter jusque assez loin dans le cours d'eau, pas forcément jusqu'à Paris, mais presque. La Bièvre, le cours d'eau qui jetait dans Paris, était plein de castors. Donc, on est quand même très loin de ce que ça a pu être. Mais effectivement, un retour s'opère, mais maintenant, le retour, il va être plafonné par la qualité des berges, plus que la qualité de l'eau, c'est les interfaces en fait qui sont importantes pour tous les animaux semi-aquatiques, semi-terrestres, comme les mammifères, comme les oiseaux, des endroits un peu de tranquillité. Et en fait, la Seine, on l'a complètement corsetée. Donc elle est maintenant prisonnière entre ces berges de béton dans Paris, et même en dehors de Paris, à beaucoup d'endroits, elle n'a plus du tout de variation de niveau d'eau, donc toutes les vasières qui sont intéressantes n'existent plus. La Seine, depuis 1830, elle a perdu 2% de sa longueur. Simplement parce qu'on l'a rectifié. Sinon, avant, il y avait beaucoup, beaucoup plus de méandres. Pareil, la Seine, en même pas 200 ans, elle a perdu 200 îles. Il y avait plus de 400 îles et maintenant, il n'y a plus que 200 îles entre Montreux et l'estuaire. Et pareil, on l'a rétréci. Le lit mineur a diminué en largeur. Il faisait en moyenne plus de 400 mètres et maintenant, il a quasiment diminué par deux. Green Dock, du coup, c'est loin d'être écolo si on regarde un petit peu plus près, parce que les grandes péniches, il faut qu'elles puissent passer les méandres, et c'est ce qui s'est passé pendant des années, des décennies. On a rectifié la Seine, on l'a creusée, on a rehaussé les berges pour qu'elles débordent pas, on a mis des écluses partout pour maîtriser l'étiage et qu'il n'y ait pas de variation de niveau d'eau trop importante. On a même créé des lacs réservoirs en amont de la Seine, en Champagne-Ardenne, pour qu'il y ait toujours ce même niveau d'eau qui permette la navigabilité. Dans certains espaces, et notamment dans l'est de la Seine-et-Marne et l'Aube, donc environ 80 km en amont de Paris, là, c'est la mise au grand gabarit de la Seine, avec encore une fois de la suppression de méandres et puis la création d'un nouveau canal de navigation, du surcreusement de lits pour ces méga péniches. C'est vrai qu'il y a cette croyance que le commerce par voie fluviale, par voie navigable, est écolo. Effectivement, si on prend que la sortie carbone, oui, c'est plus écolo que du poids lourd sur autoroute. Par contre, c'est oublier ce qu'est une rivière, ce qu'est la Seine. Et rendre navigable un cours d'eau, ça implique beaucoup d'aménagement. Green Dock, bah, d'où viendront les denrées, je ne sais pas. Mais en aval, pareil, le port du Havre, c'est la même chose. En fait, là, on est en train de le gigantifier. Il y a eu des annonces du ministre de l'économie il y a quelques semaines sur le fait que... Eh bien, ça va être le lieu avec celui de Dunkerque et celui de Marseille de la réindustrialisation en France. Et donc, on va encore plus construire, bâtir dans ce port qui, à la base, est un des plus grands estuaires de France et l'une des zones de vasières, de roselières majeures pour tous les oiseaux migrateurs en halte, pour toute la faune et la flore, tout simplement, du bord de mer. Et qu'on sacrifie à l'hôtel de l'industrialisation et en faisant croire que ce sont des modes de transport écolo.
Merci à Maxime Zucca, à Cam, Emeline et Nestor. Toutes les infos sont sur la page de franceinter.fr. Les nouvelles journées de mobilisation sont prévues sur place les 24, 25 et 26 mai. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast. Profitez-en, ça ne va malheureusement pas durer.
Dans les Nuits d'Inter, c'était l'émission de reportage d'Antoine Chao. C'est bientôt demain.
C'est comme un... Pour oublier, tout le monde crie, allez s'en va.